Ok, bon, on s'était fixé d'essayer de terminer la séquence de la fois précédente. Il nous restait quand même deux versets sur lesquels on n'avait pas vraiment évolué. Donc à partir de 10:42, je pense, et jusqu'à la fin de la péricope, dont je lis en vitesse. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Donc ça, c'est là où on était arrivé, Pierre, dans son discours. Et je crois que ça correspondait aux questions 10 et 11 du questionnaire. Donc la 10, c'était... le contenu du message, qu'est-ce que doit vraiment proclamer, attester le groupe des témoins, et puis qu'implique l'argument que Jésus est le juge des vivants et des morts. Donc le verset d'avant, c'était juste celui où il parlait de la résurrection. Donc il a présenté Jésus de Nazareth comme étant celui qui est ressuscité, sous-entendu celui qui est annoncé aussi par les prophètes, dans ce qu'on vient de lire maintenant. Mais est-ce que quelqu'un a une idée supplémentaire
Pour ça, donc, pour proclamer...
42, 43.
Ce qu'on doit proclamer. Le pardon aussi, le pardon des péchés.
Oui. Mais donc, au fond, on est dans les versets 42-43, on est quand même au cœur de la prédication apostolique. Il redit tout ce qu'il aurait dit à des Juifs, finalement. Mais il le dit d'une manière un petit peu différente pour les païens. Mais vous avez donc vu qu'il est quand même passé par l'argumentation dans les versets 42-43, sachant que son auditoire fréquente la synagogue, donc connaît les textes de la Bible hébraïque. Il leur rappelle que dans ce qu'ils ont déjà entendu, les prophètes parlent d'un Messie et du jugement. Donc ces choses sont connues. Et donc dans cette idée, c'est quand même, quand on dit qu'il est juge des vivants et des morts, on parle donc d'une prérogative divine. C'est pour ça que c'était important qu'on s'interroge là-dessus. Et ce rôle, on le retrouve dans Acte 17, mais on y viendra plus tard, la notion de jugement. Et en fait, pour la foi juive, on ne peut pas parler de jugement de la fin ou du jugement des hommes sans penser que c'est Dieu qui le fait. Donc c'est très clair pour le judaïsme que le seul qui juge, c'est Dieu. Donc quand tu prêches Jésus Messie, qui jugera le vivant et les morts, tu dis que Jésus est Dieu. C'est exactement la même chose. Donc on retrouve tout ce qu'on a déjà trouvé dans les discours de Pierre précédents. Le fait qu'il démontre à chaque fois que le fameux Jésus qu'on a cloué sur la croix n'est jamais que Dieu ou une des représentations de Dieu. Voilà. Donc, et alors, il argumente un petit peu en parlant des prophètes en général. Alors, c'est une manière de nouveau un peu sémitique de parler. Il n'est pas en train de dire que tous les prophètes parlent de cela, mais au fond que la plupart, ou je dirais la plupart des grands prophètes en parlent.
D'accord. Je peux poser une question quand on parlait de juger les vivants et les morts. Cet après-midi, j'ai pensé que les vivants, ben, c'était ceux qui avaient fait la démarche de foi. Et les morts, pas nécessairement les morts dans le tombeau, mais les morts... parce qu'il dit à un moment donné à eux, laissez-les... Les morts enterrer les morts, en fait, ils ne sont pas... Les morts c'est enterrer difficile. Les morts, ben, il faut qu'il y ait des vivants dedans. Je sais pas, je me trompe ou quoi.
Je pense que dans la notion de jugement dernier, il est vraiment question de ceux qui ne vivent plus et de ceux qui vivent encore. Mais c'est vrai qu'on peut aussi s'interroger sur ces fameux textes dont tu viens de faire allusion. Au fond, Jésus a toujours considéré qu'il y avait des morts vivants. Oui, qu'il y a des gens qui ne répondent pas à leur soif spirituelle, qui sont dans l'idolâtrie et qui sont déjà morts en réalité. Voilà, c'est aussi ce qui fait dire à Jean, dans Jean 3 en particulier, qu'on est déjà jugé. Parce qu'à partir du moment où tu n'acceptes pas la vie, et la vie proche de Dieu, c'est que tu es déjà mort. etc., etc. D'où, du coup, Jean peut aussi nous faire la démonstration que vivre aujourd'hui dans la foi, c'est être ressuscité. Vous voyez, tout ça, ça se tient, finalement. Ouais. Voilà. Donc la résurrection, elle n'est pas pour demain seulement, elle commence, elle a commencé. Mmh. Elle est dans un commencement pour chacun de nous. Mmh. Voilà. Donc maintenant, si on s'intéresse à la question, la dernière, qui était liée au verset 43 sur les prophètes, bon, en deux mots, vous avez déjà trouvé peut-être des références.
J'ai trouvé une particulière.
Oui, Ésaïe 53 en particulier, oui.
Habacuc 2.4 qui dit « Le juste vivra par la foi ».
Oui, exactement, tout à fait. Donc on a en fait plusieurs textes.
Oui, il y en a beaucoup, j'en ai...
Dans ce qui est de l'ordre des prophéties messianiques, hein, on peut en trouver pas mal.
J'ai vu en Zacharie 2.11, Jérémie 3.17, 4.2, 16.19, Ésaïe 2 et 42, il y en a beaucoup.
Oui, on pourrait. Moi, je n'ai même pas fait la recension globale. Hein. Je me suis contenté de quelques-unes, mais c'est vrai que si on relisait les prophètes, petits ou grands, on trouverait un certain nombre d'allusions au rôle d'un messie, en tout cas, et notamment d'un messie juge des vivants et des morts. Hein. Et donc, Ésaïe, principalement, il y a beaucoup de références dans Ésaïe. On peut avoir Ésaïe 8, Ésaïe 28, 53, 57, 65, etc. Bon, si vous voulez les références exactes, je peux vous les filer. Mais... et puis, bien sûr, Habacuc 2 dont tu as parlé, il y a Joël, chapitre 2, chapitre 3, on trouve aussi des éléments. Et d'autres textes bibliques qui n'ont rien à voir avec les prophètes, d'ailleurs. Je pense aux psaumes. Dans le psaume 86, par exemple, au verset 5, on retrouve de nouveau ces notions-là. Donc on peut dire que l'ensemble, si on considère ça de manière globale, l'ensemble des prophètes, qu'ils soient petits ou grands, ont un jour dit quelque chose sur ce fameux personnage-là. Et donc il dit, au fond, ben, Jésus, le Messie, qui est mort et ressuscité, en lui, en tout cas, est offert le pardon. Donc le pardon, sous-entendu le pardon des péchés, et donc le salut est offert, parce que si tu es pardonné, c'est que tu es sauvé d'une certaine manière, et offert par grâce, donc pas selon les mérites, pas selon ce que nous ferions de bien pour gagner notre ciel, et que ce pardon est offert à tous, et il revient donc sur sa vision et sur tout ce qu'il a appris depuis, c'est pas que les juifs qui sont considérés par les prophéties messianiques, et d'ailleurs si on les lit, on comprend bien. Et même si on lit la première promesse faite en Genèse, si toute l'humanité est englobée dans cette possibilité de rémission, de pardon, de salut, c'est donc que les Juifs sont les porte-flambeaux, mais ne sont pas les seuls à détenir cette grâce-là. Donc voilà, il redit des choses finalement fort connues, et il dit aussi, de manière peut-être un petit peu plus précise, la fin du verset, la 43, que c'est la foi qui est en jeu. C'est-à-dire, ce qui fait vraiment opération dans notre vie, ce n'est pas la loi, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas le mérite, ce n'est pas notre capacité à faire le bien, c'est notre capacité à mettre notre foi dans le Dieu d'Israël et dans son Messie, en particulier ici, puisque c'est de ça qu'il parle, et que c'est lui seul, finalement, et cette foi-là, ce sont les seuls éléments qui purifient notre cœur. Et on retrouvera ça d'ailleurs au chapitre 15 des Actes plus tard, et que c'est sans exception. Donc, quiconque, on va reprendre ça comme ça, quiconque a la foi est nécessairement sauvé. C'est ce qu'il dit. Et donc, ce n'est plus une appartenance à un peuple ou à des religieux qui font que tout homme qui se tourne vers le Messie d'Israël est sauvé. Voilà. En gros, c'était un peu ça qu'on aurait pu tirer des versets la fois dernière si on avait eu le temps. Et donc, peut-être maintenant en deux minutes, est-ce qu'on a quelques applications liées à la fois dernière? Ok, alors est-ce qu'on a l'un ou l'autre une application?
Moi, il me semblait, enfin, pour moi, je trouvais que l'accueil de celui qui ne pense pas comme moi, parce que ici, en fait, pour les Juifs, les autres ne pensaient pas comme eux. Il a quand même été ouvert. Bon, qu'ils avaient déjà fait un pas.
Oui.
Mais si on veut partager la bonne nouvelle, c'est pas vers ceux qui sont déjà croyants. Donc il faut être ouvert et pouvoir partager ce que je crois en étant respectueux de ce que l'autre ne croit pas comme moi. Quoi. Ça, c'est pas facile toujours.
C'est vrai.
Parce qu'on veut souvent convaincre.
Ouais. C'est vrai. Ok.
Ouais. Je viens encore de recevoir aujourd'hui une lettre de nouvelles de quelqu'un qui est actif dans les églises aux Pays-Bas et qui est en contact aussi avec des missionnaires en Moyen-Orient. Pour l'instant, il y a beaucoup de musulmans et des juifs qui se convertissent vraiment. Jésus se manifeste à eux personnellement dans des rêves et des fois il insiste, hein. Il y a des rêves qui peuvent revenir comme ça. Alors ce pasteur dit aussi qu'en Hollande, il y a beaucoup d'églises qui pensent qu'Israël ne compte plus, on a déjà parlé de ça, et que c'est les églises qui remplacent Israël. Mais c'est effrayant de lire... que les gens, dans certaines églises, Jésus, on n'en parle plus. Et pourtant, il y a des autres églises où on dit, peut-être, oui, Dieu veut bien intervenir si toi tu fais ceci et cela. Donc c'est vraiment le légalisme et tout. Mm-hmm. Et je me dis, il y a combien d'églises en Hollande, des grandes églises, où les gens ne connaissent pas personnellement le Seigneur Jésus. Donc, on peut bien appartenir à une église chrétienne et accepter certaines choses, mais il s'agit d'être né de nouveau. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui opère ça en nous. Mon père, il était protestant d'origine, ma mère catholique. Et à un moment donné, tous les deux, ils ont dû faire un choix et mettre leur confiance en Jésus seul. Et ça, c'est aussi quelque chose que dans beaucoup d'églises, on n'accepte plus, que Jésus soit le seul chemin pour aller au Père. Et c'est grave. Hein?
En fait, c'est le grand débat entre religion et foi.
Ouais.
Est-ce que notre religion est encore fidéique ou non? Est-ce que nous ne sommes que religion? Et Dieu sait si, dans pas mal de milieux, la foi est devenue sociologique. Donc on va à la messe ou au culte.
Oui.
J'ai presque envie de dire parce qu'on est protestant, voilà.
Par tradition, un peu.
Oui.
Un petit coup.
Mais on le voit dans les Cévennes.
C'est chaud.
La foi a tout à fait disparu.
C'est là que ça.
Ça a commencé là, oui, c'est triste. Les gens vont au culte. Les temples sont de plus en plus. Enfin, il n'y a pas grand monde. La moyenne d'âge, c'est 75 ans.
Personnes.
Et ils y vont par tradition. Et
nous aussi, par toi, la petite Jeannette là.
Donc c'est ça,
vrai, elle est presque la seule.
Il faut un réveil, quoi.
Ça
devrait être interpellant.
Ben oui, on va se poser des questions.
Oui,
c'est bien, monsieur.
Il n'y a pas de réponse. Hein,
mais... Non, on n'a pas de réponse, mais voilà. Mais on voit que quand la foi n'est pas là, quand Jésus n'est pas là...
Autre chose,
c'est pas pour... Moi, je te partie sur ce que tu disais qu'actuellement, on ne lisait plus... Enfin, c'est toi que eux, ils lisent la Torah en un an, etc. Bon, il y a deux applications. Il y a deux applications que moi, j'avais repérées et que bon, j'utilise pas pour lire la livre en un an, mais il y a moyen de le faire. Ça s'appelle... Attends que je prenne... The Bible in One Year, je crois. La Bible with Nikki and Pippa Gumbel. Et donc tu as des lectures pour toute l'année avec une analyse, parce que moi la Bible en allant je l'ai fait mais sans commencer rien, rien, donc il n'y a que lire et il n'y a rien à faire. Pas
ce jour, pas... Tu connais le texte, disons.
Oui, j'ai lu le texte.
Oui, non, mais c'est ça. Tu vois, c'est ça. C'est comme ça qu'on cultive ça.
Cinq ans. Il y a des commentaires.
Ouais, mais tu dois le faire plus qu'une fois, j'ai envie. Tandis qu'ici, ça travaille un peu, il t'explique, c'est ceux qui font les parcours alpha, moi je ne sais pas.
Parcours alpha.
Et donc, c'est pareil. C'est vraiment bien fait, c'est assez intéressant. Ça prend du temps. Moi, c'est ce que je fais dans le bus, mais donc, du coup, je ne le fais pas tous les jours, j'avoue. Et alors, il y avait une autre application que j'avais trouvé sympa dans l'idée, bon, qui au final pompe un peu beaucoup la mémoire, mais c'est une application qui te met. Alors, tu peux programmer des.
C'est la technologie.
Mais c'est, voilà, tu vois, chaque fois que tu allumes ton GSM, tu as droit passage. À un petit passage. Alors, tu le lis, donc tu dis.
Amen. Le verset du jour. Non,
pas du jour, du clic.
N'importe.
Ah, donc il va bâtir, lui et ses fils, et tout font de toute manière.
Ah, oui.
Tu mets Amen, hop, il te rend ton GSM. Tu peux mettre des favoris, alors tes favoris apparaissent là. Quand
Ah, oui.
Et alors, si tu fermes ton GSM et que tu le réouvres, hop,
voilà. Il y a un autre texte alors. Chaque fois. Ah, d'accord.
Ils disent, on prend. La petite pub était vraiment bien faite, j'avais vu ça en écoutant. Enfin, pas une pub sur YouTube, en écoutant des chants chrétiens. Et la pub dit, on prend notre GSM entre 20 et 40 heures sur la journée.
Et à chaque fois, t'as un nouveau.
Et à chaque fois, t'as un nouveau.
On en verra plus tard.
Et ça s'appelle, si jamais. Enfin, tu peux le lire dans l'ordre chronologique, dans l'ordre.
Ouais.
Auquel cas, il te fait des petits questionnaires à la fin des chapitres, où tu peux le lire dans le désordre. Ça s'appelle Bit Bible. B-I-T-B-I-B-L.
Mm-hmm. Et tu prends l'application Bit.
B-I-T-B-I-B-L. C'est des tout petits trucs, mais c'est vrai, tu prends ton GSM, hop, t'as un verset.
Alors, pour ceux, puisqu'on est dans les applis, l'application Holy Bible. Alors, Holy Bible, ça t'offre de multiples versions de la Bible. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir comparer quand tu fais une petite recherche. Et puis, il y a beaucoup moins d'éléments que dans ce que tu as cité. Mais tu peux aussi permettre de chercher un terme, un mot dans la Bible, etc. Mm-hmm. Et puis, ça marche plus assez bien. Et il a aussi le côté de prière et verset du jour, et des trucs comme ça. OK, très bien. Tout le monde a dit quelque chose ou bien je ne vais pas couper le sifflet à qui que ce soit.
Moi, je n'ai pas trouvé d'application, mais j'ai été frappé par quelque chose et on avait eu une conversation avec Solivan la veille sur toute autre chose. Et je retrouve cet argument de Solivan, je le retrouve aussi dans ce passage. C'est que tout vient de Dieu. L'initiative est toujours du côté de Dieu.
Oui.
Finalement, l'homme ne reçoit que ce que Dieu donne. Ce qu'il a fait, ce qu'il a organisé, ce qu'il a décidé, ce qu'il a voulu.
Mm-hmm.
Et ça se retrouve dans ce passage aussi. Alors j'ai commencé à faire la liste de ce que Pierre nous disait dans ce passage. Je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mm-hmm. C'est pas l'homme qui choisit, c'est Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Et alors on peut continuer, qu'est-ce que Dieu fait? Et on voit que finalement, l'initiative revient toujours à Dieu. Et que finalement l'homme, qu'est-ce qu'il a comme initiative? C'est d'être interpellé, d'être touché et d'accepter par la foi ce que Dieu a tout organisé, ce que Dieu a décidé. Ça remet Dieu à sa place. Mais ça remet l'homme aussi à sa place. Alors, ce n'était pas une application personnelle, mais voilà, ce serait trop long que d'aller chercher tous les détails qui nous montrent que tout ce que Dieu a fait. Mais c'est une des plus grandes doctrines de la Bible, finalement. Parce que, on en parlait avec Solivan, souvent, l'homme se voit comme étant celui qui vient chercher et qui déploie beaucoup de choses. Et Dieu, en réponse, en quelque sorte, il se laisse attraper.
Mm-hmm.
Mais Dieu est tout à fait différent. C'est Dieu qui organise tout, depuis le début jusqu'à la fin. Et comme Solivan disait, déjà la première victime pour la culpabilité de l'homme, c'était Dieu qui l'avait pourvu.
En Genèse,
en tuant l'animal pour avoir la peau, pour couvrir Adam et Ève. La création, c'est de lui. Le jugement à la fin, ce sera encore lui. Et finalement, nous ne sommes jamais que réceptacle de ce qu'il fait, de ce qu'il veut. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et si on lit ce passage de la semaine passée, ben on va en trouver des choses qui montrent que c'est Dieu qui fait.
Très bien.
Moi, je m'interroge quand même par rapport à ça. Parce que je ne saurais pas dire le passage par cœur, hein, mais Dieu agit quand l'homme se met dans la bonne atmosphère de Dieu, se prédispose à le recevoir. Et je ne sais plus les passages, c'est dommage, plus de mémoire. Mais j'ai vécu ça encore ici au temple. Ils sont, alors que c'est un temple, là, au Berlebec, œcuménique, c'est pour ça que j'y reste, hein, ouvert, ils font avec Saint-François de Sales, enfin voilà, très social, ils ont un groupe d'entraide, hein, le lundi, là, avec justement hein, l'armée du salut qui fait les repas et compagnie. Et je suis à peu près certaine que les 10 à 15 personnes qui viennent sont des gens très bien dans leur quotidien, je ne les connais pas. Mais par contre, quand j'ai parlé de la prière de guérison, hein, ils font une prière d'intercession ordinaire comme on peut faire à domicile. Ils font le jeudi soir par WhatsApp une prière en groupe. Donc ça fait, hein, quand quelques-uns sont réunis en mon nom. Et moi, si j'avais WhatsApp, je suivrais en même temps leur prière, si je ne sais jamais. Voilà. Mais par contre, je ne leur demande pas de faire la prière de guérison, mais d'être ouvert que quelqu'un, puisqu'ils cherchent, on va faire assemblée d'église, pour essayer d'amener des gens par des innovations, quoi, hein, des nouvelles choses, pour amener des gens au culte, mais par là, pour amener à Jésus. Donc, moi, c'est mon optique aussi, la prière de guérison, même s'il n'accepte que ce soit moi qui la fasse, à un moment donné, hein, soit une fois par mois, je ne sais pas, ça ils décideront ensemble, mais d'avance, il y a une résistance. C'est niet. Hein, c'était bon pour le premier temps d'église, etc. Ils ne vont pas chercher, ils peuvent aller voir sur aussi le site hein, de protestants qui ont lancé ça. Et idem pour l'accueil. Il y a le café après. Ça fait au moins quelques mois que je suis là. Pas une seule fois, on m'a approchée. Je bois mon café toute seule. J'ai essayé deux, trois fois. On reste debout. Hein. Il n'y a pas de chaise parce que les chaises sont en haut. Voilà. Et donc, j'ai essayé deux ou trois fois, mais je voyais qu'il faut parler d'affaires personnelles. Je n'aime pas. Mais oui, je me recule. Je me retourne. Celle qui s'occupe du café, elle me propose, hein, elle est bien accueillante. Mais ce que je voudrais, tu vois. Et c'est là que je me dis, et j'ai des versets, hein, mais que je ne sais plus, mais où il y a une atmosphère spirituelle à créer pour que Dieu puisse agir. C'est les deux. Moi, tu vois, moi je suis par rapport à tout ce que tu dis, la création et compagnie, le jugement, le salut, ça, c'est Dieu. Mais dans d'autres cas, je suis.
Tu es en train de parler de la manière dont l'Église peut être témoin.
Pour être témoin. Et attirer et faire venir à Jésus pour laisser le champ libre à Jésus d'agir. Il me semble qu'il y a quand même la part de l'homme. Et que là, parce que c'est bizarre qu'il y a des églises où il y a foule, même en Belgique, hein, aussi bien, bien sûr, c'est surtout chez les évangéliques, mais je connais à.
C'est parce qu'on a
chez les franciscains de Bruxelles qui sont catholiques et qui viennent encore de faire un week-end à Banu, hein, c'est fou hein, quand ils viennent aussi à Banu comme à Bruxelles. Hein. Donc il y a des églises, il y a une raison pourquoi certaines églises,
il y a des églises
Dieu agit, c'est qu'il y a quand même quelque chose en l'homme qui cloche, qui traîne,
qui freine.
Qui freine, oui. Ben voilà, c'est sûr.
Mais c'est clair que dans notre manière d'être témoin, nous sommes responsables de la qualité par laquelle Dieu peut se rendre visible. Donc c'est aussi pour ça que toute l'écriture penche toujours sur c'est pas seulement du prêchi-prêcha qu'il faut, mais c'est des actes, hein. Je pense à Jacques, la lettre de Jacques en particulier. Donc les deux authentifient la démarche de foi. Et si nous manque un des deux, ou les deux, ce qui est parfois le cas aussi, ben voilà, on est des églises moribondes. Hein.
Si tu dis quelque chose et que tu fais le contraire, c'est un contre-terre.
Bon, je ne sais pas si on aura le temps de faire la deuxième partie. J'avais encore une application à laquelle j'avais pensé, justement, dans la notion de juge. On aurait pu se dire, tiens, pourquoi Dieu n'a pas gardé lui-même la prérogative du jugement? Pourquoi n'a-t-il pas donné, je ne sais pas, au Saint-Esprit cette prérogative, lui qui... et le lien entre le ciel et la terre, bon, il se trouve que c'est Jésus, mais pas pour rien, évidemment, puisque Jésus a été à la fois celui qui a démontré que vivre en humanité sans péché était possible, hein, donc comme s'il crée une brèche, si vous voulez, dans cette humanité pécheresse, et puis, ce qui est réjouissant, je trouve, c'est de savoir que c'est Jésus qui est justement le Sauveur. Donc, celui qui est responsable de notre salut est notre juge, ou sera notre juge. Ça, c'est quand même fondamental. Parce qu'alors, on regarde déjà le jugement autrement. Si on a conscience que c'est Jésus qui est porteur du jugement, on est devant quelqu'un qui nous jugera avec équité et avec amour. Bon, c'est pas juste l'application de la loi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste, paf, t'as fait ça, mais tu prends 10 coups de fouet. Ça va être autre chose. C'est quand même une fameuse garantie pour nous que non seulement nous sommes sauvés, mais que nous serons avec lui. Parce que ce qu'il nous dira de ce que nous avons mal fait ne dépassera jamais la capacité de son amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir du moment où il nous a sauvés, c'est pas pour nous rejeter in extremis au dernier moment, parce que notre lot de péchés aurait été tellement important que finalement son salut serait gommé. Vous voyez? Donc c'est quand même intéressant. Et en même temps, on peut se dire, ben, s'il est le juge des vivants et des morts, c'est-à-dire de ceux qui peut-être aussi sont morts spirituellement, c'est aussi une sorte d'engagement que ce jugement-là sera juste également. Donc c'est pas parce que certains seraient dans le rejet. Attends, je voudrais quand même bien souligner une chose. Hein, dans le Nouveau Testament, la notion de jugement, ce n'est pas juste l'acquiescement des bons et le rejet des méchants. C'est, tu n'as pas voulu de moi, eh ben, je te laisse dans cette croyance que tu n'as pas besoin de moi. C'est ça le jugement. C'est pas une sorte de punition dramatique comme on a pu la décrire au travers de l'histoire de l'Église. Hein, l'enfer, les petits diablotins, le feu et tout ce que l'on veut. C'est juste que Dieu acquiesce à notre propre responsabilité de ne pas prétendre avoir besoin de lui. Et nous sommes donc non admis parmi ceux qui ont fait le choix de se reconnaître pécheurs et de dire « Mais oui, moi j'ai besoin. Pour survivre, j'ai besoin de toi. Pour assumer ma vie de tous les jours, j'ai besoin de toi. Pour aimer les autres, j'ai besoin de toi. » Donc je ne suis pas autonome. Voilà. Je suis dans cette dépendance.
Je me mets dans la dépendance.
Oui, j'accepte d'être dans la dépendance que Dieu m'a présentée comme étant mon besoin. Si on rejoint ce que Bernard a dit, si tout vient de lui, ben... c'est que, voilà, il a pris soin de nous donner une porte de sortie.
Moi, si j'ai bien compris, parce que pour moi, c'est nouveau ce que tu dis là. Ben oui, le Seigneur fait la part de deux choses. Ceux qui ont croit en lui, qui ont foi en lui, et ceux qui ne le font pas. Moi, je croyais que celui qui ne le faisait pas, n'avait pas cette foi, était condamné, je ne vais pas dire aux enfers, hein, mais n'était pas sauvé, n'était pas au paradis, etc. Moi, je croyais qu'il y avait vraiment cette transition-là, ce couperet-là, si tu veux. Je n'aime pas les termes « paradis, enfer », c'est pas
en
ça.
En fait, si tu veux, je crois que le couperet, il est déjà tombé. C'est ce que Jean 3, 16 dit. Hein. Donc, si vous relisez bien le chapitre 3 de Jean, il dit ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. C'est ce que le texte dit en grec. C'est-à-dire, le jugement, c'est toi qui l'as opéré en ne voulant pas de moi, en ne voulant pas dépendre de moi.
Ceux qui ne croient pas en moi sera déjà jugé, mais ils peuvent venir à croire. Après.
Oui, oui, bien sûr.
Donc,
oui,
il peut y avoir un espèce.
Il n'y a pas de déterminisme. Oui.
Voilà, il n'y a pas de déterminisme. Mais c'est, moi, je croyais que c'était. Je n'aime pas les termes, c'est difficile à exprimer. Hein. Bon et mauvais.
On va reprendre les choses. Bon mauvais. S'il y a une notion de jugement qui est autant pour les vivants que pour les morts, pour ceux qui sont vivants spirituellement ou pour les morts spirituellement, c'est donc dans les deux cas, le Seigneur a des choses à nous reprocher. Sinon, il n'y aurait pas de jugement des vivants. Pourquoi ceux qui ont déjà dit oui doivent être jugés ? Ben parce qu'ils ont une vie antérieure. Parce qu'il y a quand même des choses que le Seigneur doit mettre en exergue.
Pas seulement souligner. Antérieure, Yves, parce que
et puis même aujourd'hui, ben oui, nous sommes prisonniers du péché tout en étant sauvés. Oui. Donc on continue à faire des choses qui sont parfois moches, qui sont parfois tristes, parfois qui s'opposent à l'Évangile.
Cette partie-là, moche, ne te condamne pas.
Non, parce que là, toi, tu dis au Seigneur, je sais que je pêche.
Voilà.
Et j'ai besoin de toi.
D'accord. Alors à ce moment-là,
c'est la seule différence avec les autres.
Oui. D'accord, tout à fait d'accord.
Et donc, Dieu ne va pas être plus dur ou plus méchant avec ceux qui n'ont pas voulu de lui. Il va juste les renvoyer à leur responsabilité.
Mais leur renvoyer à responsabilité, puisque c'est lui qui juge tout.
C'est-à-dire au non-amour. Oh. Tu ne crois pas à l'amour, mais reste avec ton non-amour. C'est ça l'enfer, finalement, vous voyez. C'est ce côté imbuvable de la vie. C'est triste que des gens votent pour la souffrance, pour la haine, pour le mensonge. C'est triste. Mais en même temps, tu ne peux pas sauver les gens contre eux-mêmes. S'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. C'est aussi pour ça que je ne suis pas universaliste. J'aurais pu l'être, hein, au travers de ma carrière théologique et tout, mais je ne peux pas l'être. Parce qu'alors, il y aurait un salut automatique pour tout et n'importe quoi. Donc, ce n'est pas ça non plus, l'Évangile. Non, l'Évangile, c'est vraiment le respect de la personne humaine. Jusqu'au bout, Dieu respecte l'homme, qu'il ait voulu de lui ou pas. Mais il renvoie chacun à sa responsabilité, à sa trajectoire.
Et en même temps, ceux qui n'ont pas foi en Jésus, mais qui vivent l'amour, donc normalement, ils ne sont pas sauvés.
Ça dépend. Non, ça dépend des circonstances. De nouveau. Et c'est là la justice, la justesse de Dieu. C'est-à-dire, saint Paul le dit clairement, ceux qui ne m'ont pas connu, qui ne m'ont jamais rencontré, ou qui n'ont jamais entendu parler de moi.
Mais peut-être qu'ils n'ont pas essayé, si tu veux, tu vois, d'après l'occasion.
Ben écoute, c'est quand même des... Nous, on parle dans...
L'occasion, ok, mais Anne-Marie. Je m'interroge, moi, parce que je connais beaucoup d'athées, ils ne veulent même pas. C'est un... Et pourtant, ce sont des gens qui aiment autant que moi. Et c'est ça, là, pour eux, je m'interroge, quoi.
Oui, sauf que toi, tu seras jugé, pas sur base de ce que tu as fait, de ce que tu as produit comme amour, mais sur base de l'amour de Jésus.
Sur
toi,
base de la grâce.
Moi, je trouve que ça reste... C'est Dieu jugera, tu ne veux pas trop... Moi, je suis mal à l'aise aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mais il y a quand même derrière tout ça un fameux mystère... Encore une fois, théologiquement, on ne peut pas tout dire, ni tout expliquer. On ne peut pas tout enfermer dans des trucs carrés. Dieu, c'est Dieu, et il sait ce qu'il fait. Et donc, dans la manière qu'il aura de nous juger, que nous soyons morts ou vivants spirituellement, ce sera juste. Et ce sera dans l'amour, aussi pour les méchants. Voilà. C'est toute la notion de grâce que nous ne devons surtout pas gommer. Comment nous avons été sauvés ? Nous étions pécheurs. Et si Dieu a aimé le pécheur, il aime aussi ceux qui lui disent non. Ça ne change rien à son amour, sauf que tu es responsable du non que tu as donné. Si tu prétends que non, c'est mieux que oui, ben c'est ton problème. Et Dieu fait avec. Même si, sans doute, il en est profondément attristé.
Moi, je crois qu'il y a quand même trois personnes différentes. Il y en a un qui était au courant... et qui a dû faire un choix, etc. Il y a l'autre qui a été au courant de tout ça, mais qui a pris l'autre, qui a dit non. Et puis, tu as celui qui n'a pas été au courant. Voilà. Au contact.
On va prendre un exemple.
Pour moi, il y a ces trois choses-là. Et celui-là...
Prenons un exemple très clair.
C'est un autre jugement.
Des populations qui, encore aujourd'hui, dans le monde, il y en a, par milliers, de gens qui n'ont jamais eu accès à l'Évangile,
ouais.
De gens qui n'ont jamais entendu parler de quoi que ce soit, de tribus entières qui vivent en autarcie dans des territoires ou désertiques ou en Amazonie. Désolé, si Dieu nous disait « Ah ben tant pis, si ceux-là n'ont pas entendu parler de moi, eh ben ils iront en enfer », ce serait, c'est pas ce que dit saint Paul, justement. Paul parle d'un jugement selon la conscience que nous avons eue du bien et du mal. Parce que ça, c'est universel, la notion du bien et du mal. Alors, évidemment, la notion du bien et du mal peut évoluer en fonction du lieu où je me trouve, de la tribu à laquelle j'appartiens. Mais quoi qu'il en soit, il y en a toujours. Il y a toujours des gens qui déterminent ça c'est bien, ça c'est mal. Même si on n'a jamais entendu parler de Dieu. Et donc, saint Paul dit bizarrement que pour tous ceux qui n'auront pas eu la chance d'être sauvés ou de rencontrer ou d'entendre l'Évangile, il y a encore une grâce. Mais ça, ça ne fait pas non plus de cette annonce une visée universaliste. C'est donc pour un certain nombre d'individus qui n'auront pas eu la possibilité d'entendre la prédication de l'Évangile.
Par contre, tu peux avoir aussi des individus qui, étant dans une autre société que, disons, la nôtre, qui ont reçu une autre éducation, mais qui aussi ont des critères ou des choses d'amour aussi. Tu vois ? Et à ce moment-là, il ne sera pas nécessairement à l'encontre de notre Dieu. Enfin, moi, c'est comme ça. C'est une question que je me
pose. Toujours à la condition que l'Évangile ait été inaccessible. Tu vois ?
Oui, mais qu'appelle-t-on inaccessible ? Quand tu es dans un... Mais non, quand tu es dans un autre pays et que... disons, ben, prenons les chrétiens qui sont pourchassés, hein, qui sont persécutés. Ben, l'enfant qui naît dans une famille comme ça ne sera peut-être pas en contact de la Bible, ne sera pas en contact.
Si, par la foi de ses parents.
Ben, oui, mais si ses parents n'ont pas, ses parents n'ont pas, et que, parce qu'ils ont peur, enfin, peu importe le pourquoi. Ça, moi, ça me pose des questions pour ça. Tu vois ?
C'est pour ça qu'il faut être confiant dans le regard que le Seigneur posera sur tous nos parcours individuels, sur toutes nos histoires. Parce qu'après tout, on est en train de parler d'une chose dont on n'a aucune conscience. Parce qu'en fait, tu as des gens qui sont dans l'église, des gens qu'on côtoie, et des gens qui prêchent, et des gens qui font des tas de choses. Mais fondamentalement, est-ce qu'ils sont chrétiens ? Personne n'en sait rien. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a des gens qui ont menti toute leur vie en tant qu'homme de foi ou femme de foi. Et puis le rideau tombe à la fin, parce que tout d'un coup, au moment où cette personne disparaît, tu as plein de doigts qui se lèvent et disent « Ouais, mais c'était un salaud. » Ah oui, parce qu'une fois, qu'on n'a plus peur de celui qui est mort, la vérité surgit, évidemment. Hein.
Mais si
donc, attention. C'est pour ça qu'il faut la justice de Dieu. Parce que si elle nous avait été confiée à l'Église, comme le pensent certains,
danger.
Il y aurait plein de cas.
La justice n'est que divine, hein.
C'est clair.
La seule chose sur laquelle je pense qu'il est important quand même d'insister, c'est que ça ne doit pas nous donner l'occasion de croire que le salut est accordé par nous-mêmes, par nos propres forces ou nos capacités. Dieu jugera en fonction de chaque cas particulier.
Heureusement.
Et j'ai aimé, tu as dit, il y a la conscience, mais Paul parle aussi de la nature. Et déjà, on est déjà inexcusable parce que la nature nous parle de Dieu.
Elle parle de lui.
Et on ne voit même pas à travers la nature. Oui. Bon, notre nature est tellement corrompue qu'on a besoin de beaucoup plus que la nature pour comprendre. C'est pour ça que Jésus est venu. Et je crois que Dieu jugera certains cas selon ses critères qui sont saints. Mais dire cela ne nous permet pas de croire aussi qu'on peut déclarer que le salut sera en fonction de ce que chacun aura fait, le bien ou le mal. Et si le bien, finalement, la personne était bonne, finalement, Dieu doit l'accepter. Mmh. C'est un peu délicat, c'est très difficile.
Moi, ce que j'ai entendu, c'est simple. Voilà, c'est ce que j'ai entendu un pasteur qui a dit seul Dieu jugera.
Exactement.
C'est ça qui est important.
Ah oui, nous ne pouvons et nous ne devons pas juger. Mais notre devoir est quand même essayer de partager l'amour de Dieu que nous avons reçu. Et on a des contacts avec deux couples de voisins. pas facile du tout, mais quand elle nous a remercié, je parle d'Elisabeth, je dis Elisabeth, ne nous remercie pas, c'est parce que on est aimé de Dieu et on a envie de partager cet amour de Dieu aux autres et à vous aussi, tu vois. Et c'est pas qu'elle croit maintenant ou quoi. Tu prends chaque petit truc pour montrer que Dieu est amour et que malgré nous, il nous aime. Et ça, c'est le plus grand bien qui puisse exister. Hein. Mm-hmm. Et appeler Dieu Père, Papa, on a libre accès au trône, je veux dire, on a tellement de privilèges. Voilà, et pourtant, ce sont des gens gentils. Hein. Mm-hmm. Vraiment des crèmes, mais ils ne connaissent pas le Seigneur et pour l'instant ils ne veulent pas.
Moi, dans toutes ces situations où on côtoie des gens, on a côtoyé des gens, ou même on a témoigné à des gens, je fais toujours confiance à Dieu. C'est-à-dire, je lui renvoie à sa responsabilité, à lui.
Ouais.
Lui qui est trine, lui qui est la capacité, ne serait-ce que par l'Esprit Saint, d'éclairer davantage encore celui à qui j'ai parlé ou que je côtoie. Alors oui, on rejoint ce que tu as dit au tout début, tout vient de lui. Croire que nous pourrions être à nous seuls l'instrument de salut de quelqu'un, ça, c'est quand même faramineux. Et l'Église a parfois joué ce rôle, hein. Attention. Donc on doit être très très humble dans notre témoignage, dans notre accompagnement des gens. Et implorer Dieu qu'il fasse la part que nous ne pouvons pas faire dans la vie des gens. Parce qu'on ne sait pas le faire.
Oui. Voilà. Quand on pense que pour l'instant, il y a vraiment un grand réveil spirituel en Iran, des gens qui détestent les chrétiens et qui n'en veulent pas, ils les mettent en prison, ben, c'est un Iranien aux Pays-Bas qui dit, il a des contacts évidemment avec des gens de son pays, Dieu travaille d'une façon formidable. Et nous, on a peut-être besoin d'un réveil aussi, hein, dans nos églises. Hein. Mais vraiment quelque chose qui...
En Occident en particulier.
Ce que je trouve, moi, de stupéfiant, tu parlais des tribus éloignées, mais dans notre pays, dans nos pays civilisés, je suis persuadée qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler.
Le vrai évangile, en tout cas.
Ouais. Oui, qui n'ont jamais été. Ou même qui. L'évangile, n'importe comment, j'ai envie de dire. Ils n'ont jamais eu parce qu'ils sont dans un milieu spécial et que. Voilà.
C'est tout à fait clair.
Je trouve que c'est affolant, mais, quoi. Dans nos régions, dans nos pays.
Bon, vous n'avez pas envie de travailler ce soir.
Oui, ça.
Mais, on travaille,
c'est aussi instructif. Tu as dit tantôt, c'est pas nous qui amenons quelqu'un à Christ, Christ qui est là. Bon. Mais on peut,
c'est
nous.
C'est déjà Christ qui te supplie de le faire.
Oui, il faut aider.
Oui, mais en ce moment, je ne fais plus rien. C'est lui qui me dirige. Mais je veux dire par là que on peut susciter. Une interpellation, une curiosité. Se dire, tiens, celui-là, pourquoi est-ce qu'il fait ça?
Si tu vis,
il le fait par amour foi, et qu'il fait ça. Et ça interpelle, je crois.
Ouais. Ça explique pourquoi on parlait tout à l'heure d'église moribonde. Des églises où plus personne n'a le feu sacré. Mais on vient parce que c'est l'habitude, et puis il y a la liturgie, puis il y a ci, puis il y a là, il y a l'orgue, il y a tout ce que tu veux, sauf Jésus, sauf l'Évangile.
Oui, c'est pas parce qu'une église est moribonde et disparaît que il n'y avait pas des intentions et tout ça, et qu'on n'a pas les manières, et qu'on n'a pas. C'est très compliqué.
Oui, mais ça, garder... ça veut donc dire que ce qui est fondamental, c'est au cœur de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la foi. C'est la foi qui détermine ce qui doit se passer. Si la foi est ténue, abandonnée, voire même reniée dans certains milieux, pourquoi veux-tu qu'elle agisse? Aucune raison. Alors, Dieu, heureusement, est Dieu. Donc, il voit bien ce désastre. Il voit bien que certaines de nos églises ont quasiment perdu le sens de ce que peut être la foi. Mais lui, il peut encore faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Alors, vous savez, je l'ai dit d'ailleurs à une époque chez vous, à Fléron, hein, à l'église, Dieu sait ce qu'il fait. si quelque chose doit fermer, même une église, hein, parlons clairement, est-ce que c'est juste parce que cette église était mauvaise, parce qu'elle est morte, parce que si, non, pas nécessairement. Parfois, de cette église mourante à l'agonie, va renaître deux autres choses, trois autres choses. C'est nous qui avons la vue tellement courte que nous pensons qu'il faut perdurer malgré tout. Alors qu'en fait, il faut peut-être renaître. Et il faut peut-être repartir vers autre chose. Il faut peut-être faire autre chose. Ok. Alors, je ne veux surtout pas couper la dynamique, hein, mais je me dis qu'on ne pourra pas faire l'entièreté de ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui. Donc, il faut être sage. Hein. Il faut peut-être couper la poire en deux. Attaquer en tout cas un bout du texte suivant. Mais s'il y a encore des choses, il faut les laisser sortir, je suis d'accord.
On a beaucoup de questions, hein, c'est vrai.
C'est un sujet très, très, très...
Moi, je trouve que dans des réunions, des questions comme ça...
On ne perd pas son temps. Hein.
Voilà, moi, je trouve qu'on ne perd pas son temps.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Oui. Est-ce qu'on ose attaquer un bout? Que voulez-vous faire?
On va avoir bonne conscience. Voilà. Moi, j'aime bien avoir bonne conscience.
Ok. Ouais. Donc, vous avez vu, on va quand même lire le texte entier, parce que pour bien l'avoir en tête. Donc, si quelqu'un veut faire la lecture à partir de 44 jusqu'au fin du troisième verset du chapitre suivant, c'est impeccable.
Personne? Je veux bien le faire. Personne d'autre?
Allez, 44.
Ben oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Encore trois autres.
Oui, trois.
Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Oui, avec eux.
Oui. Très bien.
Hein? Mais je me suis arrêté.
Mais avant, ta femme n'avait pas foi que tu t'arrêtes. En fait. Non, c'est bien. Merci. Donc, c'est clair qu'on ne pourra pas tout faire ce soir et qu'on va d'abord s'interroger. Donc, la première question, c'était finalement pourquoi ce discours n'est pas terminé.
Parce que le Saint-Esprit intervient.
Oui. C'est-à-dire?
Bien, il descend sur ceux qui écoutent la parole. C'est fantastique.
Ça a étonné d'ailleurs les...
Ouais. Parce que le texte, quand on a le mot parole dans nos versions, hein, Pierre exposait encore ses paroles, etc., c'est de nouveau le mot rémata, c'est-à-dire les paroles sur les événements passés, les paroles sur l'histoire de Jésus, le salut en Jésus, la mort, la résurrection, tout ça il l'a fait, donc il était lancé dans ce discours. On a vu qu'il était en train d'annoncer le pardon des péchés accordé à quiconque croit, etc. Et au moment où il est en train de parler de ça, quelque chose se passe dans l'assemblée, effectivement, une manifestation de l'Esprit-Saint qui met un terme au discours. Donc le discours est totalement interrompu puisqu'on va passer à autre chose. Vous l'avez lu, du discours, on va passer au baptême. Voilà, poum. Alors que l'évangélisation n'est pas terminée. Non, c'est assez étonnant, quoi. Mais en même temps, on doit s'interroger. Pourquoi il en était ainsi?
Je vais poser une petite question, 46, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Ils, ce sont Pierre et ceux qui l'accompagnaient, ou bien les païens?
C'est les païens qui parlent en langue.
Non, tu as raison, ce sont les juifs accompagnant Pierre et Pierre qui, qui décode. Oui, c'est les païens qui parlent en langue.
Ah.
Mais oui, c'est les autres qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe?
Oui. Oui.
On parle d'étonnement dans le texte.
Oui. D'accord.
D'accord.
Oui, oui.
Donc, du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de raconter. Je vais
bien sauter sur une autre question.
Vas-y.
Que j'aurais posé après. Hein, mais oui, du coup, ça suit ce que Robert dit, c'est que s'ils étaient étonnés de les entendre parler en langue et glorifier d'eux, ça veut dire potentiellement ils n'ont pas vu le Saint-Esprit descendre, c'est un peu signe que ce n'était pas visible.
Non. Tu as raison, peut-être qu'il n'y avait pas les flamèches de la première Pentecôte, admettons.
Oui. Hein.
Mais pour un juif, entendre tout d'un coup, même des juifs, parler dans une autre langue et louer Dieu, c'est déjà un événement en soi. Mais là, c'est pire que ça. C'est chercher des païens. Tout d'un coup, les païens se mettent à faire la même chose que ce qu'ils ont connu eux, ou qu'ils connaissent encore eux d'ailleurs. Tu vois? Et c'est là, ils se disent, c'est là la stupéfaction. Comment c'est possible?
Je me suis demandé que si finalement le discours ne devait pas être interrompu, parce que c'était un moment où Dieu voulait attester que tout ce que Pierre avait dit était vrai finalement.
Oui,
exactement.
Je fais justement.
Au fond, c'est l'attestation incontestable. Ni les juifs, ni les païens ne peuvent contester que ça s'est passé. Voilà. Que c'est une réalité, que Dieu est intervenu. Mm-hmm. Ça met un point final au débat pur-impur.
Qu'on a connu.
Et qui va ressurgir à Jérusalem. Hein, d'accord. Mais bon, il n'est pas encore tout à fait solutionné. Mais quelque part, c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé. Donc Pierre n'avait pas terminé son discours. Sa longue démonstration... Hein, rappelez-vous le discours fleuve d'Étienne qui n'était pas non plus terminé. Là, il vient à peine de commencer il est coupé par Dieu, en fait. Coupé dans son élan, mais en même temps...
Le message est transmis.
Voilà.
Et alors, quand le Saint-Esprit tombe, la deuxième, donc je vais relire ça, le Saint-Esprit tomba, en tout cas, c'est le grec le dit, hein, surtout ceux dont... Tomber, c'est de nouveau une formule un peu sémitique. C'est comme remplir, si vous voulez. Il tombe pour aller dans. Il ne tombe pas comme ça, boum, pour nous écraser. Il tombe pour entrer dans l'intériorité des gens. C'est ce que sous-entend, en tout cas, le côté hébraïque des choses. Donc, à ce moment-là, nous dit le texte, donc je relis, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Et là, ce n'est plus le même mot que tout à l'heure. Là, ce n'est plus rémata, c'est-à-dire la parole sur les événements, c'est la parole avec un grand la et un grand p, sous-entendu la parole de Dieu. Hein, c'est ton logon en grec, il n'y a pas photo. Et de manière assez inattendue, donc, le Saint-Esprit vient attester non seulement ce que le discours de Pierre, mais que Dieu est Dieu. Il atteste que Dieu est la vérité, que le salut qui était destiné à l'humanité depuis la Genèse, s'accomplit, et s'accomplit maintenant réellement dans les faits, dans une assemblée composée de païens. Ce qui est quand même pas rien, quoi. Deuxième chose, comme on l'avait dit tout à l'heure pour le texte précédent, ben on peut en tirer la constatation très importante que Dieu seul est à la manœuvre. Personne n'a forcé Dieu à le faire. Et ce ne sont pas les hommes qui prétendent le salut aux autres. C'est Dieu qui intervient dans l'histoire, qui garde l'initiative, qui garde le contrôle, qui accomplit son plan de salut, lui qui l'a toujours déterminé depuis Genèse 1. Hein, vous vous rappelez quand même la promesse faite déjà à Adam et Ève, et puis celle faite à Abraham, etc. Donc, il est dans le contrôle à lui seul de ce qu'il a préconisé depuis l'origine des temps, c'est-à-dire le salut offert à l'humanité pour tous. Donc, sous-entendu, païen compris, puisqu'on est là au 1er siècle. Et c'est lui qui décide du moment. Pourquoi ce moment-là? Pourquoi juste cette petite assemblée de 15-20 personnes, peut-être, chez Corneille? Pourquoi pas en plein cœur d'Athènes? Pourquoi pas, je ne sais pas, n'importe où ailleurs dans le monde, à Rome? Non, ça commence là, de nouveau, comme nous avons souvent vu Dieu commencer petitement. Il faut que les choses... naissent progressivement, comme une petite graine. Et moi, ça me passionne toujours, ça, de voir comment Dieu commence avec rien, pour que ça devienne un truc incroyable par la suite, quoi. Donc c'est lui qui décide tout ça souverainement. Pierre n'est absolument pas à la manœuvre, hormis son discours, d'accord ? Il ne fait rien pour que le Saint-Esprit tombe. Il n'a pas imposé les mains aux gens, contrairement à d'autres textes où on voit dans les Actes et ailleurs, dans les épîtres de Paul, que parfois on impose les mains, puis le Saint-Esprit fait coucou. Là, non. Le don de l'Esprit est répandu sur des païens sans que personne n'ait ni demandé, ni agi pour que ça se passe. Et ainsi, donc, l'enseignement de Pierre reçoit sa confirmation de manière totalement incontestable. Deuxième constatation, et je vous avais demandé de le faire d'ailleurs, de comparer les récits entre ce récit-ci et les autres, qu'avez-vous trouvé d'intéressant ?
Moi, j'ai trouvé que, en fait, ici, ils reçoivent l'Esprit avant d'être baptisés. Exactement. Et que partout ailleurs, ils sont baptisés, puis ils reçoivent
l'Esprit. Et parfois, ils reçoivent l'Esprit par l'intermédiaire d'hommes. Par l'imposition des mains. Parfois, c'est Dieu qui agit, mais parfois, il y a la nécessité qu'il y ait une prière appropriée pour que l'Esprit se manifeste. C'est pas qu'il ne soit pas intervenu, soit visible, manifestement visible, et donc encourage de nouveau l'Église, d'une certaine manière, dans ses tout débuts. Donc ça, c'était une chose très importante à faire, cette comparaison avec tous les autres récits, pour se rendre compte que Dieu, en plus, a forcé ses habitudes. Vous voyez, d'habitude, il y a le baptême, une espèce d'appel au baptême, et puis après le baptême... Le Saint-Esprit, là, pas du tout, c'est le Saint-Esprit.
Il aime bien de se renouveler.
Qui tombe sur des païens par-dessus le marché. C'est des craignants Dieu, on est d'accord.
Ça vient confirmer le songe que Pierre a eu, avec la nourriture, les différents. Mais là, ils l'ont reçu, et le Saint-Esprit va sur eux, sur chacun, toutes ces personnes différentes qui ne sont pas juives, qui ne sont pas chrétiens.
Je trouve qu'il y a quand même. Un ordre qui ne change pas dans tous les cas. C'est les cœurs sont préparés.
Déjà.
C'est la prédication de la parole qui est toujours en suite et qui est là. Puis c'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et puis c'est les cœurs qui sont touchés par l'intervention du Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, visible ou non.
D'accord.
Et puis souvent c'est le baptême après. J'ai trouvé cet ordre qui est pratiquement à chaque fois.
Et peut-être installer la repentance, quoi. Les gens qui se rendent, qui changent comme des pasteurs, qui font tour de 180 degrés, ils vont aller par là, ils vont par là. La repentance et le baptême de repentance.
Mais donc, le détail que le Saint-Esprit tombe de manière inattendue, avant même qu'il y ait eu une espèce de... nous, on aimerait bien être baptisés, tu vois. Il n'y a personne qui s'est prononcé. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit tombe sur l'ensemble des assistants, sauf les Juifs et Pierre. On est d'accord, c'est ce que le texte dit. Et d'ailleurs, on voit la réaction. En tout cas, pour moi, c'est clair que ça atteste de nouveau que Dieu veut le salut des païens. Et pourquoi est-ce si important alors qu'il l'ait fait comme ça? Vous avez une idée?
Parce que, comment se fait dire, le païen ne peut pas se faire baptiser s'il n'a pas reçu quelque chose d'autre, s'il n'a pas
été
sensibilisé à quelque chose.
Ok, mais en même temps, il était déjà craignant Dieu. Ils allaient à la synagogue, ils connaissent le Dieu d'Israël. Et comme tu viens de dire, Pierre vient de prêcher la totalité de ce qu'il faut pour que les gens puissent se prononcer.
Mais c'est un plus.
Et alors,
ça donne, je veux dire, le coup de pouce, le coup de... Comment ?
Ça donne à réfléchir.
À réfléchir. Et comme tu dis, même s'il y en a d'autres qui hésitent, maintenant, ils sont en face d'une réaction de Dieu.
Rappelez-vous la vision de Pierre.
Et ben, les animaux, ils sont purs ou impurs dans le drap.
Est-ce que, si ça s'était passé autrement, est-ce que les Juifs de Jérusalem, et d'ailleurs... aurait accepté le comportement de Pierre.
Non.
Donc Dieu sait ce qu'il fait. Quand il fait descendre l'Esprit, avant même que les gens aient dit « Moi, je suis prêt à suivre ton Jésus de Nazareth » ou « Moi, je veux être baptisé », etc. Ou qu'on leur propose le baptême, Dieu a décidé. Dieu a décidé. Et du coup, ça va clore, on verra plus tard, mais ça va clore le débat pur-impur à Jérusalem aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup... ce qui était une promesse que les païens seraient sauvés devient une réalité parce que Dieu le veut, parce que Dieu l'a voulu. Et non pas parce que l'Église aurait pensé que c'était bien de s'ouvrir aux païens un petit peu. Mais alors, ça aurait posé un big problème. Comment tu peux laisser entrer des païens dans une communauté messianique juive alors qu'ils sont impurs? Ou alors, il fallait tout leur demander d'adopter le judaïsme, de se faire circoncire. Vous voyez ce que je veux dire? Or, Dieu a décidé autrement.
Mais tu l'as dit tantôt, Dieu sait tout. Il est, comment dire, il connaît tous les guillemets trucs, tous les moyens d'arriver à quelque chose. Hein, et c'est ça sa force.
Et en même temps,
nous, on croit que ça va aller, et puis non. Parce que lui est. Je ne vais pas dépousser des gens, c'est pas ça. Il sait tout. Il agit complètement. Donc, et il nous surprend, parce que nous, on s'attend à autre chose. Ouais. On s'attend d'avoir une certaine logique de l'homme. Mais il n'y a pas de logique avec Dieu. Enfin, moi, c'est comme ça que je sens. Il est omniprésent, il est absolu.
En tout cas, on se rend compte de nouveau que toute promesse faite par Dieu va à son terme.
Oui.
Donc, il n'y a rien de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a promis qui ne se réalise. Oui. Et comme les hommes sont rébarbatifs à cet appel, il prend les rênes et il fait lui-même les choses que les hommes ne peuvent pas, ne veulent pas, ne souhaitent pas faire. Parce que lui, il va dans son plan. Il avance, qu'on le suive ou non, il avance vers cette idée de sauver un maximum, de sauver parmi les hommes un maximum. Ce qui est quand même assez incroyable, quoi. Mais du coup, donc, alors, si on veut avancer, on va au moins faire le 45. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que ce fut la stupeur. En grec, c'est très fort. C'est un terme... c'est un big étonnement, quoi. Parmi les circoncis. Donc, c'est bien uniquement les compagnons de Pierre. Parce que si vous avez bien lu au travers des lignes, est-ce que Pierre est étonné?
Non.
Ce n'est pas une question que j'ai posée, mais il n'est pas du tout étonné de ce qui se passe, lui. Et pourquoi il n'est pas étonné?
Parce qu'il était obéi. Alors, il était obéi et qu'on l'a...
Et il a été missionné pour ça. Il a mis le doigt dans l'engrenage. Il a accepté la vision. Il a accepté de se dire pur et impur, c'est plus aussi important qu'avant. Et puis là, tout d'un coup, devant ses yeux, s'accomplit ce qu'il était en train lui-même de raconter ou de dire ou de vouloir d'une certaine manière. Alors lui, il n'est pas étonné. Il a l'air de se dire, ah, incroyable. Parce que ça va au-delà de ce qu'il attendait, lui. Lui, il attendait la conversion... Hein, du passage du judaïsme à la voie messianique, il attendait de pouvoir faire les ablutions nécessaires, hein, le baptême, etc. Et puis tout aurait marché tout seul. Sauf que ça posait un problème à Jérusalem. Hein, donc il espérait bien que Dieu était de son côté quand même un petit peu. Donc stupeur, étonnement, on peut même aller dans l'abasourdissement, si vous voulez. Le texte en grec, c'est fort, ça veut dire... Ils étaient hors d'eux-mêmes, non pas dans le sens d'excité, de colérique, mais hors d'eux-mêmes parce que c'était l'inattendu,
l'impensable,
etc. Et donc c'est d'ailleurs assez bien expliqué en 45b, quand on nous dit que ils sont étonnés parce que Dieu répand son esprit sur des païens. C'est ça qui les étonne, eux.
Aussi.
C'est pas que le Saint-Esprit se manifeste, ils en ont l'habitude, c'est pas leur problème, ça, mais qu'ils le fassent avec eux, qu'ils viennent convertir, entre guillemets, passer du judaïsme, de leur craignant en Dieu à autre chose, finalement, ils se disent, ben, les païens reçoivent le Saint-Esprit comme nous, les juifs. Du coup, ben, si Dieu détermine que des païens peuvent avoir l'Esprit Saint, c'est qu'ils sont nos frères, alors. Parce que nous l'avons reçu en tant que juifs. Puis tout d'un coup, les païens auxquels on s'adresse le reçoivent. Ben, on doit en tirer les conclusions. Même Dieu, même fraternité. Quelles que soient nos origines et quelles que soient nos croyances antérieures, quelque chose nous réunit qui n'est pas de nous, qui n'est pas de nos capacités personnelles, de nos forces, de nos capacités intellectuelles, etc. Et ils reçoivent donc ce baptême comme une manifestation tout à fait incroyable. D'ailleurs, beaucoup de commentaires des siècles passés quand ils abordent ce texte-là, parlent de la Pentecôte des païens. Donc, comme il y avait eu la Pentecôte juive à Jérusalem, si vous voulez, se déroule une Pentecôte des païens qui va faire, qui du jour au lendemain, si vous voulez, ouvre la communauté messianique au monde païen. Même s'il faudra encore des années pour que ça ait un effet véritable, hein, et que le judéo-christianisme s'ancre à peu près partout. Mais donc c'est quand même terriblement important ce texte-là.
Par rapport à la Pentecôte, il y avait des non-juifs.
À Jérusalem, tu veux dire
Oui, à Jérusalem. Et donc, mais eux n'auraient... Je vais me dire, c'est probablement ce que pas écrit, mais eux n'auraient pas été touchés par le Saint-Esprit à ce moment-là.
En tout cas, les non-croyants qui étaient là à la Pentecôte ont entendu parler de l'Évangile dans leur langue.
Oui. Dans leur langue. Oui.
Ça, c'est la réalité. Alors, ont-ils dit oui ou ont-ils tourné le dos? Ça, on n'en sait rien, le texte ne le dit pas. Ont-ils après été témoins eux-mêmes ailleurs en rentrant chez eux? Peut-être bien. Tout ça, ce sont des choses qu'on... Mais en tout cas, la plupart de ceux qui sont à Jérusalem en tant que païens, si tu veux, à l'époque, sont certainement des craignants Dieu. Donc la plupart ont la même démarche que Cornelius.
Ils viennent pour les fêtes.
Voilà, ils viennent pour les fêtes. Alors peut-être il y a 2-3 vendeurs dans le tas qui viennent pour faire du fric, mais la plupart viennent parce qu'il y a quelque chose qui est terriblement important, à Jérusalem en tout cas.
En tout cas, il fallait une officialisation claire, divine.
Et totalement divine.
Que les païens entrent dans l'Église.
Exactement.
Ça, s'il y a eu des conversions de païens qui étaient là à la Pentecôte, oui, probablement, peut-être, on ne sait pas, mais il fallait une officialisation à demeure pour toujours.
Et incontestable, totalement incontestable. Et d'ailleurs, on le voit très vite au chapitre prochain, on le verra ensemble. C'est incroyable que l'espèce de, comment on va dire, de blâme, hein, pour reprendre un terme qui était dans ta version, qu'on veut adresser à Pierre, va tomber comme un flop immédiatement dès qu'il va expliquer comment ça s'est passé.
C'est logique.
Alors là, évidemment,
parce que ce qu'il dit là,
si le Saint-Esprit s'en mêle, qu'est-ce qu'on peut faire contre à moins de se renier totalement soi-même. Quoi.
Oui, c'est quand même l'objectif du Seigneur, hein, c'est de convertir les païens.
Et donc, le verset suivant, il vient juste nous éclairer sur est-ce que c'est bien le Saint-Esprit qui est descendu? Ben oui. La preuve, c'est que ces gens parlent en langue, célèbrent la grandeur de Dieu, etc. Exactement les mêmes signes qu'à la Pentecôte à Jérusalem. Pas de doute, Dieu est à l'œuvre parmi les gentils comme il l'a été parmi nous. Et à partir de ce moment-là, on voit bien que même nos amis, donc les six, puisqu'on sait qu'ils étaient six, les six membres des compagnons de Pierre, pour eux, ça, c'est OK. Et d'ailleurs, ils acceptent d'être témoins à Jérusalem par la suite. Hein. Donc, ils n'ont pas peur, eux non plus. Quelque part, ce qu'ils ont vu est incontestable. Donc, ils veulent en être témoins. C'est naturel pour eux de devenir témoins à ce moment-là. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je ne veux pas... Voilà, presque là.
En tout cas, le verset 47 confirme bien la procédure, vais-je dire. Puisqu'il dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Donc l'ordre a été inversé.
On peut dire que jusque-là, on était dans le discours de Pierre et les conséquences. Les conséquences, c'est Dieu intervient. Mais à un moment donné, Pierre ne reprend pas son discours. Il est en train, à qui dit-il ce que tu viens de dire?
Ses compagnons.
Oui. Pas aux païens, ils se tournent vers les six qui étaient là, et qui avaient l'air complètement abasourdis, et leur dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Lui aussi, t'as peur de ça.
Alors, en grec, c'est assez rigolo, parce que c'est l'expression, j'essaie de la retrouver comme ça, peut-on empêcher l'eau pour être baptisé?
Ah, empêcher
l'eau. Oui, jusqu'à là. Alors, il y a eu le baptême de l'esprit. Ils ont été plongés dans l'esprit, ou l'esprit est tombé sur eux, ou l'esprit les a remplis. Est-ce que maintenant on peut faire semblant qu'on n'a pas d'eau? Est-ce qu'on peut s'empêcher de les baptiser? Ce qui serait quand même incroyable, quoi, tu vois. Donc Pierre a raison. La première chose qui lui passe par la tête, c'est se dire, mais est-ce que quelqu'un parmi nous peut empêcher de baptiser ces gens maintenant qu'ils parlent en langue et qu'ils célèbrent la grandeur de Dieu. Et bien sûr, on devine tous que la réponse ne peut être que négative. Posée comme elle est posée là, et au vu de ce qui s'est passé, ben on ne peut pas dire « Ah oui, oui, moi je m'y oppose. » Ben non. Tout le monde est unanime. C'est clair. C'est clair qu'on doit aller jusqu'au bout de quoi ? De la pratique messianique. On nous a demandé de baptiser. Et puis Jésus lui-même l'a dit « Allez parmi les nations et baptisez tout le monde. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'anormal à le faire ? Et là, évidemment, en commettant le baptême, ce groupe-là, des six, parce que vous observerez dans le texte que c'est pas Pierre qui les a baptisés, hein, c'est Pierre qui demande qu'on les baptise et il donne l'ordre à ces six de le faire. Donc, je veux dire qu'ils étaient quand même nombreux, là, l'assistance, manifestement. C'était, bon, est-ce qu'ils l'ont fait dans la fontaine du coin ou dans la piscine de Corneille ? Je sais pas, mais enfin, ils ont trouvé les moyens de le faire. Et on se rend compte là aussi que c'est il y a du temps qui se déroule. C'est pas un truc qui se fait comme ça. Hein, il pose sa question puis vite on plonge dans l'eau. Ben on a dû préparer tout ce truc là. Et tu vois bien qu'alors à ce moment-là les païens eux sont unanimes. Non seulement ils parlent en langue, non seulement ils ont tout d'un coup un bunch comme ça, une envie de Jésus. Dans leur vie, mais ils sont prêts à aller au baptême. Mm-hmm. Et d'ailleurs, la suite du texte montre bien qu'ils l'ont fait. Mm-hmm. Eux aussi ont accepté leur part à eux, d'être responsables de leur oui devant Pierre et les six compagnons de Pierre. Donc, à la question, on découvre qu'à partir du moment où Dieu a agi, on ne peut pas se passer du reste de la prédication qui est aller parmi les nations et baptisez-les. Au nom du Père, du Fils, et donc le groupe unanime va appliquer ça en baptisant les gens, bien sûr, au nom de Jésus-Christ, pas au nom de n'importe quoi. Et la conséquence, ce sera quoi ?
Et d'abord, qui reste ?
Voilà.
C'est peut-être justement parce qu'ils n'ont pas eu l'enseignement avant.
Exactement.
Et qu'ils veulent
continuer. Donc la première chose qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que la soif était grande. Après ce qui vient de se passer, entendre Pierre, l'Esprit Saint qui tombe, la question de Pierre sur le baptême, tous ces gens trouvent qu'ils n'en ont pas reçu assez. Pourtant, je ne sais pas, moi, si j'avais reçu l'Esprit, je me dirais, oh, c'est bon, les gars. Hein, maintenant, je m'en vais, bye bye. J'ai la preuve que Dieu est intervenu dans ma vie. Non, non. Eux, ils disent, non, c'est pas assez. Il faut que tu restes encore quelques jours. Et quelques jours, ça risque d'être, comme on l'avait vu dans le reste des actes, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Vous voyez, ce n'est pas deux jours. Donc, voilà. Ils sont restés. En tout cas, si ce n'est pas tout le groupe, c'est en tout cas Pierre et certains. Ils sont restés encore plusieurs jours. Alors, première chose, bien sûr, pour les enseigner. Parachever l'instruction. Parce que, bon, malgré tout, je suppose que si c'était des craignants en Dieu, ils ont plein de textes de l'Ancien Testament, si vous voulez, dans la tête. Ils se disent, oui, mais... Dis-nous quelque chose de plus là-dessus. Comment ça se fait que les prophètes ont dit ceci ? Comme on l'a fait tout à l'heure au sujet des textes qu'on a tous trouvés. Comment ça parle au cœur des gens, quoi ? Et on sent donc cette soif, une soif profonde du Dieu vivant, soif profonde de Jésus de Nazareth. Et donc ça, c'est important. Et la deuxième chose qu'on peut trouver, en tout cas dans les commentaires, c'est l'idée qu'ils veulent rester unis dans cette croyance messianique. Alors, soit ils avaient besoin de Pierre pour s'intégrer dans une communauté messianique qui existait peut-être déjà à Césarée, on n'en sait rien, puisque on a vu que Pierre faisait le tournée de la Judée. Il n'était pas encore allé à Césarée. Bon, là, il y va parce qu'il y a une vision et un but, mais rien n'empêche de croire qu'il y en avait déjà une. Et s'il n'y en avait pas une, ils sont la première communauté messianique de Césarée. C'est encore plus... Ah, moi, je sais pas, ça donne envie quand même, quelque part. Nous, on a trouvé plus que ce qu'on avait trouvé dans le judaïsme. Pas dans le sens de judaïsme mauvais et nous bon, mais dans le sens un complément qui nous éclaire totalement sur le Dieu d'Israël. Et là, bon, ces gens, si on pourrait presque parler de consécration d'une nouvelle communauté. Reste, parce qu'on a besoin de toi pour devenir communauté, pour être une communauté de témoins visibles, en tout cas à Césarée. Voilà, je pense que ça, c'est important si on a compris ça, puis on fera le reste le chapitre 11, les trois versets, la fois prochaine, peut-être avec encore à cheval sur autre chose, à moins qu'on ait beaucoup de... Parce qu'on n'a pas fait les applications pour nous aujourd'hui, évidemment, puisqu'on n'a pas fini. Mais on peut se dire que la fois prochaine, on peut se donner un peu de temps pour nos découvertes, pour creuser un peu ce texte-là en particulier. Ça vous va? Ok. Donc, il est quoi? 9h06. On est dans notre temps. En tout cas, moi, j'ai... c'était un texte qui me paraissait assez connu, comme ça, je me dis, ça... pas grand chose à en tirer.
La preuve.
Non, mais on est toujours étonné. Quand tu commences à travailler, la première lecture que tu fais du texte, tu dis bah oui, ça, on sait ça. C'est du connu. Et quand tu grattes et tu fais les comparaisons, que tu relis tes prophètes et tout, tu dis oui, oui, oui. Il y a bien plus que ça, quoi. Ça met un peu de feu, comme ça.
C'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, que lire la Bible en une année, c'est bien, mais tu n'en retires pas grand-chose. Il faut... C'est pas la lire comme un roman, c'est la lire et la ruminer, comme on l'a déjà dit aussi.
Oui.
Hein.
C'est vraiment mais la ruminer. Je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas mettre de côté l'idée que la relire quasi annuellement est important. Parce que c'est au fil de cette relecture permanente...
Qu'on redécouvre.
Allez, c'est comme si ça se... cette Bible se... s'établissait en 3D, si vous voulez. Au fil de nos lectures et de nos relectures, ce texte devient incontournable, vivant. Alors, bien sûr, on ne comprend pas tout, moi non plus, hein, attention.
Et ouais. On oublie beaucoup.
Mais oui, ça aussi. Non.
C'est tellement riche.
Mais non, je trouve que c'est important. Je ne sais pas si vous avez connu alors, Ralph Challis de son vivant ou Ralph Challis dans ses livres... Donc, qui était un évangéliste dans les années 70, 80, etc., d'origine anglaise. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais jeune adolescent dans un camp de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et de lui, j'ai beaucoup appris. Parce que lui disait, même si tu ne comprends pas, lis. Et tu verras qu'un jour, c'est comme si ton franc tombe. Alors, bien sûr, il vaut mieux avoir un outil avec soi. Parce que si je veux gagner du temps, l'outil va me permettre de gagner quelques années. Parce que sinon, il m'aurait peut-être fallu lire 25 ans pour mieux comprendre tel passage. Et alors, en plus, j'insiste sur l'idée de lire même les bouquins qui nous paraissent...
hermétiques.
Totalement. Ah, oui. Lévitique.
Mais je trouve ce qui se développe aussi, c'est un fil conducteur qui, au fil du temps, tu commences à le découvrir au fil des années... Tout se relie, tout se...
Et si tu le fais, si tu le fais, tu te rends compte que le Nouveau Testament fait des connexions permanentes avec l'Ancien, et presque vice-versa. D'un coup, l'Ancien te projette dans le Nouveau. Et ça, on n'en a pas conscience quand on commence sa vie chrétienne.
Parce que pour nous, c'est difficile de croire que quelque chose d'ancien te projette dans le futur. Que le futur te rappelle un truc d'ancien. Ça, d'accord.
C'est ça qui fait que l'écriture, enfin toute l'écriture judéo-chrétienne, est un livre exceptionnel. Car comment tu peux dire que plus de 60 auteurs sur 5000 ans d'histoire ont été capables de faire quelque chose d'homogène? Si tu fais ça, fais une expérience dans la rue et tu verras que ça ne marche pas. C'est impossible. Donc, la seule vérité, c'est que le Saint-Esprit a été à la manœuvre, le Christ, le Verbe incarné, était à la manœuvre et que tout concorde. C'est d'ailleurs ce que les Juifs pensent, comme nous. Sauf qu'ils n'ont pas la Nouvelle Alliance, voilà. Mais ils pensent exactement ça. Hachem, c'est pour eux, il n'y a pas photo. C'est lui qui dirige, hein, personne d'autre. Très bien, les amis.
Merci.
Est-ce que quelqu'un veut prier pour terminer ?